Kiosque Magazine.
Bonjour à tous, le Kiosque Magazine du 2 février a commencé.
Oui, bonjour Roger,
bonjour
Marie,
bonjour Francine,
bonjour tout le monde.
Alors, comme vous avez pu le constater, nous sommes trois autour de la table du studio ce matin. Et toujours en régie, Jean-Sébastien Laliberté. C'est notre Manitou, celui qui manie tous les boutons.
Oui.
Alors, nous avons à vous proposer au cours de l'heure qui s'en vient, Franceline, un petit aperçu des sujets dont vous nous parlerez.
Oui, alors le premier sujet est tiré de la revue Protégez-vous et il porte sur le retour des marchandises que nous avons achetées et qui ne nous conviennent pas.
Mm-hmm.
Et le deuxième sera tiré de la revue Le Bel Âge et qui s'intitule « On vivra chez toi ou chez moi ». C'est que lorsqu'on a 50, 60, 70 ans et qu'on décide de vivre ensemble, comment nous nous organisons pratiquement?
Bon. Oh.
Voilà.
Et Marie?
Alors moi, je vous parlerai de deux articles d'abord. D'abord, une plainte contre la malbouffe au Carnaval de Québec et de l'importance des amis pour avoir une bonne santé. Et dans un deuxième temps, des bonnes nouvelles. Donc, la conduite automobile accessible à certains malvoyants et un site web sur les droits des patients.
Bon, pour ma part, je vous parlerai de la revanche des têtes blanches. On vous parle de longévité. Comment on fait pour se rendre à 100 ans,
oui,
même à
100
ans?
Oui, intéressant.
Mais par ailleurs, je vous parlerai aussi d'écologie et d'économie. Ce sont les tendances qu'on prévoit dans l'actualité pour l'année 2015. Pour ouvrir le bal, Franceline?
Oui, alors, suivez le guide. Acheteur déçu ou pris de remords, réjouissez-vous. Il est de plus en plus facile de vous faire rembourser des articles en bon état chez les grands détaillants. Lorsque nous avons décidé de mettre à l'essai la politique de retour de quatre grands détaillants en tentant de nous y faire rembourser des produits d'usage courant, nous nous attendions à devoir vivre les situations dignes des 12 travaux d'Astérix. En effet, les commerçants n'ont aucune obligation légale de reprendre de la marchandise en bon état. Or, nous avons plutôt eu droit à des services à la Speedy Gonzales. Il faut dire que nous avons respecté à la lettre les conditions édictées dans chacune des politiques de retour et que les détaillants sont tenus d'appliquer toute politique qu'ils ont adoptée volontairement. Une politique de retour est considérée comme de la publicité et celui qui ne la respecte pas pourrait être accusé de représentation fausse ou trompeuse, explique Jean-Jacques Préau, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. Ainsi, un shampoing anti-pelliculaire Life nous a été remboursé sans problème chez Pharmaprix une semaine après l'achat, comme promis par la garantie de la marque maison. Notre journaliste qui l'avait essayé, une fois, l'a retourné prétextant qu'il rendait ses cheveux secs et difficiles à coiffer. Même rapidité chez Provigo, au retour de Carré de blé, le choix du président, dont le goût n'avait pas plu à notre journaliste. La boîte de céréales ouverte a été reprise sans plus de questions, 10 jours après les emplettes à l'épicerie et les 3,99 plus taxes créditées sur la carte de crédit utilisée à l'achat. Une mijoteuse Crock-Pot nous a été aussi remboursée en 2 temps, 3 mouvements, dans un calendrier de la Montérégie, lorsque nous avons expliqué que l'ami à qui elle était destinée avait déjà un autocuiseur. Et ce, même si l'article avait été acheté 4 jours plus tôt à Montréal. Dans ces 3 cas, les commis nous ont fait signer la preuve de remboursement et inscrire notre numéro de téléphone à des fins de service à la clientèle. Une précaution dont on ne s'est pas embarrassé à IKEA, où la lampe décorative Copar, retournée parce que son format n'était pas adapté à nos besoins, a été remboursée sans autre preuve écrite que le reçu émis par le terminal de paiement. Il faut dire que le géant suédois mise sur la rapidité. En moins de 10 minutes, les 20 personnes qui nous précédaient ont toutes été remboursées. Alors vous songez à retourner un article en bon état en magasin? Voici 9 conseils qui rendront votre démarche aussi efficace que la nôtre. Donc voici donc les 9 conseils. Le premier, lisez attentivement la politique de retour. En général, elle est affichée sur le site web de l'entreprise ainsi qu'au bas ou au verso des factures, et parfois près des caisses en magasin. Vous y apprendrez par exemple si l'article doit être retourné au magasin d'origine ou si n'importe laquelle des succursales du magasin l'acceptera. Deuxièmement, faites attention aux exceptions. Les politiques de retour peuvent en contenir plusieurs. Les emballages de DVD ou de logiciels ne doivent pas avoir été ouverts. Les sous-vêtements, les produits en liquidation et les commandes spéciales ne sont généralement pas remboursables. Pour éviter les mauvaises surprises, prenez connaissance de ces exclusions avant d'effectuer tout achat. Troisièmement, posez des questions. Au moment de payer, il ne faut pas hésiter à faire éclaircir des détails de la politique et à faire inscrire des réponses sur le ticket de caisse, encore plus s'il s'agit d'un cadeau. Quatrièmement, conservez vos factures. Quand vous avez le moindre doute sur un achat, conservez précieusement la facture dans un endroit précis où vous pourrez la retrouver facilement. Vous avez perdu votre facture et désirez tout de même vous faire rembourser, le commerçant peut décider de vous accommoder, mais il n'a aucune obligation légale de le faire si sa politique précise que vous devez avoir en main votre preuve d'achat. Cinquièmement, conservez toutes les étiquettes originales et le plus d'éléments d'emballage possible. Si vous n'êtes pas certain d'un achat, ne le déballez pas plus que nécessaire, car la plupart des politiques précisent que les articles doivent être retournés dans leur emballage d'origine. Jacinthe et Amélie, deux mères de famille adeptes des retours chez Walmart, interrogées pour cet article, n'enlèvent donc jamais les étiquettes des prix des vêtements qu'elles font essayer à leurs enfants à la maison. Il est ainsi plus simple pour elles de retourner en magasin les vêtements qui ne conviennent pas. Sixièmement, ayez en main la bonne carte de crédit ou de débit. La majorité des politiques précisent que le remboursement sera effectué selon le mode de paiement utilisé lors de l'achat. Septièmement, rapportez aussi les primes. Si vous avez reçu des articles promotionnels ou des points bonis avec votre achat, ils doivent être retournés avec celui-ci. Nous avons par exemple dû rendre l'argent Canadian Tire, obtenu à l'achat de la mijouteuse.
Oh non.
Et oui, et les points PharmaPrix Optimum accumulés grâce au shampoing. 3,99 plus taxes. Huitièmement, respectez le délai maximum pour les retours. Sa durée varie grandement. De 90 jours chez Canadian Tire, il passe à 10 jours chez Provigo, mais ne vous pressez pas inutilement. Le remboursement ne sera pas plus simple le lendemain de l'achat que la veille de l'expiration du délai. Neuvièmement, choisissez bien votre magasin. Si vous savez déjà que vous aurez peut-être à retourner l'article, assurez-vous de vous rendre chez un détaillant ayant une politique de retour qui vous convient. Parce qu'il n'a pas les mêmes moyens financiers que les grandes chaînes, le commerçant du coin va souvent avoir une politique plus restreinte que la leur. Mais il est tout aussi dans son droit. Enfin, faites valoir vos droits. Vous avez suivi la politique de retour à la lettre, mais un détaillant refuse de vous rembourser. Essayez de vous entendre sur une autre solution, en demandant un échange ou une carte cadeau, par exemple. Contactez le service des plaintes de l'entreprise par courriel ou par téléphone. Si cela ne fonctionne toujours pas, consultez l'Office de la protection du consommateur qui vous remettra une trousse d'informations contenant les articles de loi pertinents et un exemple de mise en demeure. Il se peut que le fait d'utiliser la documentation avec l'entête de l'Office mette suffisamment de pression sur le commerçant pour qu'il essaye de régler le problème. Si cette tactique échoue, alors qu'un achat important est en jeu, vous pourrez toujours vous rendre à la cour des petites créances. Voilà, sachez qu'il est payant pour les détaillants d'offrir le service de remboursement que de ne pas le faire, car la satisfaction du client est essentielle pour un commerçant et la concurrence tellement forte.
IKEA.
Alors cet article était dans la revue Protégez-vous de février 2015. Il était écrit par Benoît Labrosse.
Canadian Tire et tout. Dans le Reader's Digest de janvier, Bruce Grierson nous fait connaître trois personnes qui ont trouvé la clé de la longévité. Il intitule son papier « La revanche des têtes blanches ». On demande souvent conseil au Dr. Ephraim P. Engelman. C'est un rhumatologue américain qui dirige un prestigieux centre de recherche à l'Université de Californie à San Francisco. Il aura 104 ans au printemps 2015. La question qu'on lui pose le plus souvent: quelle est la meilleure façon de rester aussi productif, heureux et en bonne santé que vous l'êtes? Réponse: choisissez bien vos parents. Comme la plupart des boutades, celle-ci renferme un fond de vérité. L'hérédité compte. Cependant, elle n'explique pas tout, loin de là. Selon des scientifiques, l'ADN compte pour environ 30% dans la longévité. Les 70% restants relèvent d'autres facteurs, dont le mode de vie, et les stratégies psychologiques, ça va mieux comme ça. Le docteur Engelmann accepte rarement de prendre de nouveaux patients à sa clinique. Il se sent maintenant tenu de suggérer aux habitués de son cabinet de lui trouver un remplaçant. En vain, il préfère rester avec lui. L'expérience et la sagesse, cela ne se trouve pas sur Google. Il est sans doute le médecin en exercice le plus âgé aux États-Unis, les yeux pétillants sous des sourcils broussailleux. Il aime distribuer ses mots d'esprit. Il a renouvelé récemment son permis de conduire, me voilà en règle jusqu'à 105 ans, dit-il. Co-fondateur avec Rosalind Russell du Centre de recherche en rhumatologie de l'Université de Californie à San Francisco, il en assure toujours la direction. Une fois au bureau, il fait sa correspondance, consulte des collègues, reçoit des patients et, de façon générale, échappe aux lois du vieillissement et au dépérissement des capacités cognitives. Autre personne qui a un âge assez canonique, c'est Betty Jean McHugh. Elle a 87 ans et elle ressemble, dit l'auteur, à un lutin. Mais c'est une marathonienne. C'est la plus rapide au monde dans son groupe d'âge. Elle détient une étonnante longueur d'avance. En 2012, lors du marathon d'Honolulu, elle a franchi la ligne d'arrivée du parcours en 5h14, un marathon, imaginez, battant le record précédent de près d'une demi-heure. Depuis sa première course sur route à l'âge de 51 ans, cette mère de 4 enfants de Vancouver a établi plus de 30 records mondiaux. Les vétérans de la course à pied ne sont pas rares dans les marathons des grandes villes, mais passé un certain cap, autour de 80 ans, leurs effectifs chutent brusquement. Ce n'est pas un hasard si la performance athlétique humaine s'effondre à peu près à cet âge, 80 ans. Pour des raisons que les scientifiques ignorent, le corps commence alors à décliner 2 fois plus vite, la masse musculaire s'affaisse brusquement, les poumons perdent leur élasticité, les mitochondries, les centrales d'énergie de nos cellules, se dégradent, les os perdent de leur densité, l'équilibre est instable. Ceux qui arrivent à résister à pareil vent contraire, les Betty Jean de ce monde, sont entourés de mystères. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Pour cette personne, c'est une marathonienne. Évidemment, elle était active toute sa vie et on le dira tout à l'heure, c'est une infirmière à la retraite, évidemment. Maintenant, on s'en va en France. À Trosly-Breuil, c'est un village au nord de Paris. Jean Vanier, 86 ans, vit simplement. Chaque jour, il franchit la courte distance qui sépare sa maison du foyer collectif qu'il a fondé il y a 50 ans. Il y mange, il rit, fait la vaisselle et prie avec sa famille d'adoption. Elle constitue la première communauté de l'Arche. Fondée selon la vision de Jean Vanier, l'organisme repose sur l'idée que lorsque des adultes souffrant de handicap intellectuel vivent dans des résidences privées aux côtés d'adultes en bonne santé, les uns et les autres en tirent des bienfaits. Fils de Georges Vanier, qui fut gouverneur général du Canada, il semblait destiné à un autre style de vie. Après avoir soutenu une thèse de doctorat sur Aristote, il enseigna brièvement la philosophie à l'Université de Toronto. Cependant, il éprouvait une curiosité spirituelle que le monde universitaire ne pouvait satisfaire. Aussi suivit-il en France son mentor, le père Thomas Philippe, un dominicain, pour embrasser une vie de pauvreté et de défis au quotidien. Jean Vanier serait-il le même homme aujourd'hui s'il avait suivi la trajectoire de ses jeunes années? Dieu seul le sait, dit-il. Tout ce que je peux dire, c'est que maintenant je suis là, j'ai cheminé, j'ai encore des choses à apprendre pour faire tomber des barrières, pour être plus ouvert aux autres. Ce n'est pas terminé. J'ai 86 ans, mais l'aventure se poursuit. Il n'existe pas, comme pour le vieillissement physique ou cognitif, de période connue où l'on commence à perdre sa spiritualité, pas plus qu'il n'existe de marche à suivre fiable si cela se produit. Des études ont révélé que les personnes qui assistent à des cérémonies religieuses vivaient plus longtemps que les autres, mais nul ne sait si l'ingrédient actif est la dimension spirituelle, le rituel ou encore le réseau social. Il est tentant de présenter Betty Jean McHugh, Ephraim P. Engelmann et Jean Vanier dans leurs domaines respectifs comme des modèles de bon vieillissement corporel, cérébral et spirituel. Cependant, les différentes manières de bien vieillir ne sont pas mutuellement exclusives. En fait, ces 3 personnes, comme d'autres hommes et femmes remarquablement robustes, partagent un certain nombre de points. Tous sont animés d'une détermination qui les pousse hors du lit chaque matin, même par temps de tempête. Leur motivation est dirigée vers l'extérieur. Les 3 ont choisi un métier qui aide les autres. En analysant les données du projet Longévité, une étude qui a suivi plus de 1 500 enfants américains jusqu'à leurs vieux jours ou leur tombe et dont un livre a été tiré en 2011, Howard Friedman, professeur de psychologie à l'Université de Californie de Riverside, remarqua une constante: ceux qui travaillent plus dur vivaient plus longtemps. Ce qui nous ramène à la bonne vieille formule « se battre, s'adapter, persévérer ». Le cerf-volant qui reste en vol le plus longtemps est maintenu dans le ciel par sa résistance au vent. Texte qu'on retrouve dans le Reader's Digest du mois de janvier sous la plume de nommé Bruce Grierson.
Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, l'image claire et la floue. Sur mes sentiments. Sachez que je craque. Je veux tout, le silence et les promesses, le rigide et la souplesse. Je veux tout, l'anarchie et la sagesse, ton sourire et puis tes fesses. Je veux tout, toi et tous tes amis, pour tracer mes jours. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, tout de suite et ici.
Alors, un article de Marie Allard, dont le titre est « Plainte contre la malbouffe au Carnaval de Québec », publié dans la Presse Plus le 27 janvier 2015. Bonhomme Carnaval risque d'avaler sa caramilk de travers. Alors que s'ouvrait vendredi le Carnaval de Québec, la Coalition québécoise sur la problématique du poids a porté plainte à l'Office de la protection du consommateur contre le village et la tante, M. Christie Cadbury, destinée aux familles. La grande visibilité des logos de M. Christie et Cadbury dans cet espace d'animation et d'activité familiale en fait un message publicitaire, indique Corinne Voyer, directrice de la coalition Poids, dans une plainte dont la presse a obtenu copie. Cette publicité contrevient à la loi sur la protection du consommateur parce qu'elle cible les enfants de moins de 13 ans et remplit les trois critères d'interdiction prévus selon Mme Voyer. En effet, les friandises Cadbury, on pense au chocolat caramilk, crunchy, jujube ménard, etc. Toutes des bonnes choses. Et les biscuits de M. Christie, Oreo, Chip Ahoy, etc. suscitent fortement l'intérêt des enfants, ce qui est interdit. Sur le site, les logos Monsieur Christie et Cadbury sont incontournables. Il ne s'agit pas d'une sobre mention des commanditaires, toujours permise. Enfin, le lieu est clairement fréquenté par les enfants, le village accueillant précisément les familles. 3 millions en commandites privées en 2013. Le partenariat avec Monsieur Christie existe depuis plus de 10 ans, a réagi Justine Leblanc, attachée de presse du Carnaval de Québec. La notion de commandite, partenariat dans les événements, est essentielle et indispensable en termes de retombées économiques pour la région et permet de surcroît d'offrir à la population des activités accessibles à tous. Malgré la publicité, les enfants de 8 ans et plus doivent porter l'effigie du carnaval, vendue 15 $ pour avoir accès au site. Les commandites privées ont tout de même rapporté environ 3 millions de dollars en 2013, soit le tiers des revenus, selon le rapport annuel de l'événement. Le carnaval refuse de dévoiler combien exactement paient Cadbury et M. Christie pour s'associer à Bonhomme. « Nos ententes avec nos partenaires privés sont confidentielles », a fait savoir Mme Leblanc. Même si ça fait 10 ans que M. Christie est un commanditaire, ce n'est pas une raison pour maintenir de mauvaises pratiques publicitaires, répond Mme Voyer. La zone pour enfants pourrait être commanditée par Hydro-Québec, un produit qui n'est pas destiné aux enfants. Dès 2012, la coalition Poids s'est inquiétée de voir des fabricants de malbouffe commanditer le carnaval sans pouvoir agir. Maintenant, le guide d'application de la loi est clair. L'usage des logos peut constituer de la publicité aux enfants s'il répond aux critères prévus par la loi, indique Mme Voyer. Utiliser un personnage qui est aimé, c'est une tactique de marketing qu'on connaît bien, note Mme Voyer. C'est dérangeant. On ne verrait pas de problème si Bonhomme faisait la promotion des fruits et légumes. Bonhomme n'est pas obligé de vendre de la malbouffe. Je rappelle que c'était un article de Marie Allard, publié dans la presse le 27 janvier dernier. Alors, un autre volet, un autre article. Les amis, ça peut être bon pour la santé. Il y a un lien avec ce que vous avez lu tout à l'heure, Roger. Alors, c'est un article de Anne-Caroline Desplanques, publié le 21 janvier dans le Journal de Montréal. Avoir un solide réseau social n'est pas seulement bon pour le moral, c'est aussi une garantie de bonne santé physique, voire de longévité, selon une étude menée sur le campus de l'Université Concordia à Montréal. Les gens mieux intégrés socialement ont tendance à vivre plus longtemps, indique le professeur Jean-Philippe Gouin du département de psychologie de l'Université Concordia. Grâce à ces expériences, le chercheur est le premier à exister les raisons physiologiques de ce phénomène. D'abord, ce qui touche le rythme cardiaque, il a démontré que l'isolement prolongé diminue en fait les variations du rythme cardiaque. Or, cette diminution est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de mortalité prématurée, explique le professeur Gouin. Pour faire cette démonstration, le scientifique a mis à contribution 60 étudiants étrangers, âgés en moyenne de 23 ans et récemment arrivés au pays, donc isolés de leurs parents et amis. Il a mesuré les variations de leur rythme cardiaque 3 fois au cours des 5 premiers mois de leur séjour et les a interrogés sur le nombre de contacts sociaux qu'ils avaient par semaine. Résultat, plus les sujets voyaient et parlaient à plusieurs personnes chaque semaine, mieux leur cœur se portait. Autre élément qui touche le système nerveux, en mesurant les variations du rythme cardiaque de ces jeunes migrants isolés, le chercheur a en fait pu ausculter leur système nerveux parasympathique. Ce système joue un rôle dans le ralentissement de la fréquence cardiaque. Il est responsable de l'état de repos et de digestion qui nous permet de recharger nos batteries, explique le professeur Gouin. D'autres études menées sur des animaux sociaux ont montré que l'isolement prolongé altère en plus le métabolisme et le système immunitaire et nuit même à la guérison après une blessure. Le message est clair. Rapprochez-vous des autres. Le plus vite vous parviendrez à vous intégrer socialement, en meilleure santé vous serez. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça en vaut la peine, conclut le professeur Gouin. Ajoutons que cette recherche n'a pas considéré les relations entretenues sur les réseaux sociaux comme étant partie prenante des relations sociales. Parce que loin de briser l'isolement, celle-ci serait plutôt le miroir de la solitude moderne, révèlent des études. Alors, je rappelle que c'était un article de Anne-Caroline Desplanques, publié le 21 janvier dans le Journal de Montréal.
Alors, quelques brèves. 5 kilos, c'est le poids d'une pelletée de neige moyenne. Ne soyez donc pas étonnés si vous avez des courbatures le lendemain d'une grosse bordée. Pour éviter les blessures, poussez la neige au lieu de la soulever et de la lancer par-dessus votre épaule. Pelletez-en une petite quantité à la fois et optez pour une pelle légère d'environ 1,5 kg.
Chez le voisin, c'est ça l'idée. En jupe sur les rails, une petite histoire ici. À l'été 2013, une vague de chaleur submergea le nord de Stockholm. Les cheminots décidèrent donc de porter un short au travail. La direction leur fit remarquer que cela contrevenait au code vestimentaire des chemins de fer. Les hommes enfilèrent aussitôt la jupe. Et ça a marché. Les hommes peuvent porter la jupe parce que les femmes la portent, déclara un porte-parole de la société ferroviaire. Soutenir le contraire serait discriminatoire, expliqua-t-il. Un changement officiel du code vestimentaire autorisant le short suivit rapidement cette action. La compagnie de chemin de fer prétend que l'affaire des hommes en jupe n'y est pour absolument rien.
Quel hasard!
Le ministre de la Défense d'Israël dit « Nous voulons la nourriture instantanée, la paix instantanée, la démocratie instantanée, mais la guerre aux djihadistes sera longue. Il faudra travailler sur le cœur et l'esprit et être prêt à une longue opération. »
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors maintenant, un article écrit par Michel Dubreuil dans la revue Le Bel Âge de février 2015. À 50, 60, voire 70 ans, il arrive qu'on décide de faire vie commune avec son nouveau partenaire. Convaincu qu'une recette aiderait les tourtereaux à s'organiser avec le contenu de leur maison respective, je me suis adressée à quelques designers. Résultat, la solution miracle n'existe pas. Tous les designers me l'ont dit. Chaque couple qui décide de cohabiter constitue un cas particulier et le succès de l'aventure dépend avant tout des individus concernés. Puis ils ont tous ajouté que l'exercice est un véritable casse-tête. Combiné à la satisfaction de chacun, le contenu de deux maisons n'est pas une chose facile en soi. Celui chez qui l'autre vient habiter peut facilement se sentir envahi. De son côté, celui qui aménage chez l'autre peut éprouver de la difficulté à se sentir chez lui. La solution ne serait-elle pas que chacun quitte sa maison et que le couple s'installe dans un nouveau lieu ? Peut-être. Réalisable ? Pas toujours. Alors le casse-tête, car c'en est un, on le résout comment ? D'abord, on discute. À ne jamais perdre de vue, c'est une autre maison que vous allez créer ensemble. Un nouvel espace que tous deux devez apprécier. Dès le départ, chacun doit se dire que la nouvelle demeure ne sera pas une réplique de l'ancienne. Attendez-vous donc à devoir faire des compromis. Pour mener à bien le projet, une bonne communication est essentielle. N'hésitez pas à parler franchement de vos attentes réciproques. Évitez les non-dits. Par exemple, est-ce que dans toutes les pièces, il y aura un mélange des choses appartenant à chacun ou préférez-vous vous départager les pièces ? Est-il possible que dans la nouvelle installation, chacun ait un espace à lui, un bureau par exemple ? Commencez la discussion en parlant des biens qui vous tiennent à cœur et dont vous ne voulez pas vous séparer. Ces meubles et objets à valeur sentimentale ajoutée sont souvent des souvenirs de famille. Les émotions entrent alors en jeu. Aussi, gardez-vous de critiquer les souvenirs de votre partenaire et faites preuve de souplesse. Il tient à garder une commode ayant appartenu à son grand-père, mais qui à vos yeux est tout simplement horrible. Alors, ayez l'esprit ouvert, cherchez plutôt une solution pour l'intégrer au nouveau décor. Revampez avec un peu de peinture et de nouvelles poignées, qui sait, elle pourrait peut-être prendre le chemin de la chambre d'amis. Respectez les préférences de l'autre et soyez prête à faire quelques sacrifices, car il y en aura. Ne considérez pas votre partenaire comme un antagoniste. Ensemble, vous êtes à construire un nid où tous deux, vous devez vous sentir bien. Ensuite, on élague. À avoir toujours en tête, il est impossible que le contenu de deux maisons puisse entrer dans une seule. Donc, dans un premier temps, on dresse l'inventaire de ce qu'on n'a pas l'intention de garder et on donne à ses proches, à une œuvre de charité ou encore on organise une vente débarras. Un exercice nécessaire puisque des deux doit libérer la place pour l'autre et que celui qui déménage ne doit pas avoir l'air d'un envahisseur en s'amenant avec la totalité de ses possessions. Passez en revue les placards. Vous devrez sans doute vous départir de plusieurs vêtements. Déjà que vous manquiez de place quand vous viviez en solo, pensez que bientôt vous serez deux. Discutez de l'espace dont chacun a besoin pour ses vêtements. Si le placard de la chambre ne suffit pas, recherchez une solution. Peut-être devrez-vous ranger les vêtements hors saison dans des paniers sous le lit ou encore dans des housses de plastique dont on retire l'air à l'aide d'un aspirateur et qui sont super compactes. N'oubliez pas de faire l'inventaire du cagibi si vous en avez un. Deux ensembles de décorations de Noël, est-ce bien nécessaire? On n'a pas besoin non plus de deux sécheuses. Chacun de vous a une maison bien équipée. Faute de place, vous devrez sans doute vous départir de gros morceaux. Bureau, lit, table, chaise. Même chose pour les électroménagers. Qui a besoin de deux laveuses, deux sécheuses, deux cuisinières? Sur quelle base faire la sélection? Rien de plus simple. Peu importe à qui ils appartiennent, on garde les appareils les plus neufs, les plus beaux, les plus pratiques. La machine à expresso italienne plutôt que la cafetière à 25$. La cuisinière avec four auto-nettoyant plutôt que celle qui n'en a pas. Idem pour les petits appareils électriques, les accessoires de cuisine et même le mobilier d'extérieur. Pour ce qui est de la literie, vous préférerez sans doute profiter du moment pour la renouveler. Enfin, on planifie. Sur le site www.house.com, qui est en quelque sorte l'encyclopédie de la décoration, on y va de quelques conseils pour les couples dans votre situation. Par exemple, prendre des photos ainsi que les mesures des pièces et des meubles qui se trouvent déjà dans la demeure où l'on s'installera à deux, puis faire de même à propos des meubles de l'un qui devrait s'ajouter. Ensuite, à l'aide de ces données, discutez comment se fera l'intégration du mobilier du nouvel arrivant. Cela vous évitera quelques désagréments le jour du déménagement. S'il y a des accords, on suggère de garder l'esprit ouvert et de se dire « Pourquoi ne pas essayer ? Vous n'avez rien à perdre. » House propose également d'acheter ensemble quelques meubles ainsi que quelques articles de façon à souligner la nouvelle réalité. Quant aux objets auxquels chacun est attaché, il est certain qu'ils ne pourront pas être tous exposés en même temps. Sinon, votre nouveau salon prendra des airs de magasin. Le site offre une solution originale. Faire tous les deux ou trois mois une rotation, une partie des objets rangés, une partie exposée. On peut mêler des collections de chacun ou encore les présenter en alternance. Et comment faire l'accrochage des tableaux? Chacun a les siens. Celui qui s'installe chez l'autre ne doit pas simplement chercher des espaces libres sur les murs et suspendre ses toiles de façon aléatoire. Il est conseillé de décrocher tout ce qui est déjà au mur, d'examiner les tableaux de l'un et de l'autre, de voir ce qui irait ensemble et de réaliser un tout nouvel accrochage. Un dernier conseil. Mettre aux oubliettes les traces d'un grand pan de sa vie n'est pas facile pour la majorité des gens. La charge émotive est grande, on tergiverse, on n'arrive pas à se défaire de certaines choses. Parfois même, on peut finir par se demander si cohabiter est, après tout, une si bonne idée. C'est dans ce cas qu'un professionnel peut être appelé à la rescousse, dit la designer Michel Belair. En toute objectivité, il visitera le lieu où s'installe le couple, évaluera le contenu de chacune des maisons, fera des recommandations sur des pièces de mobilier qui peuvent s'intégrer harmonieusement dans le tout nouveau décor, verra à trier les objets, à suggérer quelques achats qui feraient toute la différence. Une démarche qui peut enlever pas mal de stress et éliminer bien des tensions inutiles. Voilà, c'était dans la revue Le Bel Âge de février 2015.
Alors moi, je suis dans un registre tout autre. Je vous parle de l'actualité qui fait de la prospection. Elle nous dit ce que nous réserve l'année 2015 sous la rubrique générale 2015 tendance, avec des titres comme L'avenir par les chiffres, Soignez votre compagnie et Un homme et ses chaussettes. On nous vous a déjà parlé de ces articles dans des émissions antérieures. Aujourd'hui, je vous donne les tendances anticipées par l'actualité en écologie et en économie. Je commence par le climat. Le titre de l'article, c'est « Les petits montent au front » par Valérie Borde. Devant l'échec des gouvernements à lutter contre les pollueurs, groupes de citoyens et instances locales ont appris le langage de leurs adversaires et leur riposte fait mouche. 9 ans après l'annonce du Northern Gateway, les projets d'oléoduc destinés à transporter le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta s'engluent dans une mare de protestations, malgré le soutien actif d'Ottawa à l'industrie. Environnementalistes, autochtones, scientifiques, élus municipaux et simples citoyens participent à des marches, déposent des mémoires, occupent l'espace médiatique de Kakuna à Kitimat, en passant par Washington. Un nouveau mode de gouvernance de l'environnement émerge. Plutôt que de se laisser dicter quoi faire par des autorités dépassées, la population prend les choses en main. Cette mobilisation par le bas peut freiner les émissions de gaz à effet de serre bien plus efficacement que les ministères de l'environnement souvent minés par les lobbies et étranglés par les déficits. La clé de la réussite, c'est l'écolittératie, la capacité de chacun de comprendre comment fonctionnent les systèmes naturels qui rendent possible la vie de l'être humain sur Terre. Cette stratégie qu'est l'écolittératie fonctionne surtout quand la population s'attaque aux entreprises qui ont une importante part de responsabilité dans le réchauffement climatique. C'est le cas des sociétés pétrolières. Par ailleurs, à New York, en septembre dernier, 500 000 de personnes ont marché pour le climat. Même en Chine, des manifestations populaires font capoter des projets d'usines polluantes du jamais vu. Alors que depuis 20 ans, certains avaient misé sur le lobbyisme auprès des gouvernements, ils reviennent à des stratégies de mobilisation semblables à celles des années 1970. À l'époque, certains s'en souviendront, c'était les manifestations qui avaient incité le gouvernement américain à donner du mordant au Clean Air Act, loi qui a fait diminuer radicalement les émissions polluantes des usines et des voitures. Les autorités locales semblent elles aussi plus performantes que les États, car elles s'attaquent à des problèmes qui les touchent directement. En Europe et en Asie, les villes combattent la congestion automobile et le smog en investissant des milliards de dollars dans les transports communs et les voies cyclables. Elles trouvent des solutions en échangeant des idées au sein d'organisations mondiales, comme l'Alliance des villes pour la durabilité, ou le C40, un regroupement de 40 villes pilotes pour le climat. Quoi que fassent désormais les États, les champions de demain dans la lutte contre les changements climatiques ne seront pas la Suède ou le Canada, mais bien New York, Baie-Saint-Paul, votre voisin, et peut-être vous. Tendance donc en matière de climat, un texte signé par Valérie Borde, toujours dans l'actualité du mois de janvier. Autre texte, celui-là porte sur l'économie. Le Québécois se fend en 4. La commission Charbonneau, le commerce en ligne, Netflix et l'instabilité économique nous transforment. Voici les nouveaux types de Québécois qu'ils ont engendrés. D'abord, le citoyen inquiet. C'est une émotion vieille comme le monde, mais rares sont les moments dans l'histoire où la peur s'est manifestée sur tant de registres à propos d'autant d'enjeux. Nous avons peur de perdre notre emploi ou de ne pas en trouver un. Peur de ne pas avoir d'économie et de pension de vieillesse ou peur de perdre nos économies et notre pension de vieillesse. Peur que notre endettement personnel nous étouffe ou que celui de l'État nous prive de services que nous apprécions. Nous avons peur du réchauffement de la planète et de ses conséquences. Peur de trop polluer avec le pétrole. Peur de nous appauvrir sans pétrole. Nous avons aussi peur du terrorisme et des mouvements islamistes radicaux. Peur surtout d'une menace devant laquelle nous sommes nus, fragile et impuissant, l'épidémie de fièvre Ebola. Alors, Pierre Duhamel continue son texte en parlant d'un deuxième Québécois, c'est le consommateur volage. Le service à la clientèle sera l'obsession des détaillants en 2015. Et il continuera, je présume, à accepter qu'on vienne de rapporter des articles dont on a
Absolument.
Moins besoin. Oui, c'est ça. L'expérience client et les programmes de fidélisation seront encore plus populaires. Le commerce subit une profonde mutation depuis quelques années. Les goûts et les habitudes changent. La population vieillit, la croissance économique est timide et le marché du travail piétine. Près de 60 % des Québécois ont acheté en ligne en 2013 contre 43 % trois ans plus tôt, en 2010. Le détaillant du 21e siècle, doit donc maintenir à la fois des boutiques pour que les consommateurs examinent ses produits et une infrastructure numérique pour le commerce électronique. La concurrence l'oblige par ailleurs à des politiques de solde et de promotion quasi permanentes, ce qui réduit d'autant la rentabilité. Et il y a aussi l'innovateur mutant, c'est les gens qui changent leur mode de vie, par exemple Netflix et la télévision. On regarde la télévision d'une façon différente maintenant. Et l'entrepreneur vertueux, forcément, avec la commission d'enquête Charbonneau et tout ce qui en est découlé. On se tient, on se promène, on est moins entreprenant qu'on l'était, disons, dans le temps. Alors, c'était sur l'économie, Pierre Duhamel, c'est toujours dans l'actualité du mois de janvier.
Alors, deux très bonnes nouvelles. La première, un texte de Katia Gagnon, « Malvoyant au volant, conduire autrement », publié le 29 décembre dernier dans la presse. Marc Chaput n'aurait jamais pensé qu'il pourrait un jour aller reconduire lui-même ses enfants à l'école. À cause d'une maladie congénitale, le nystagmus, qui provoque un mouvement involontaire des deux yeux et rend la vision de loin floue, M. Chaput n'avait jamais pu apprendre à conduire. Grâce à un programme novateur de l'Institut Nazareth et Louis Braille, il peut désormais prendre le volant de sa voiture. Sa vie en a été transformée.
Oh, tiens.
Une centaine d'usagers malvoyants sont sur la liste d'attente de l'Institut Nazareth et Louis Braille, l'INLB, afin de suivre la formation qui leur permettrait de faire subir une petite révolution à leur vie en devenant aptes à prendre le volant. 12 usagers de l'INLB sont passés par ce processus d'apprentissage qui dure près d'un an et demi. Ils ont tous réussi leur examen de conduite à la Société d'assurance automobile. Par quelles étapes ont-ils dû passer? Annick Gemme, spécialiste en activité clinique à l'INLB, et Roger Dufour, optométriste, nous l'expliquent. Première étape, la sélection des usagers. Les usagers qu'on inscrit sur la liste d'attente doivent répondre à des critères bien précis, explique Roger Dufour. Ils doivent avoir un handicap visuel qui leur donne une acuité visuelle sous la normale, souffrir d'une pathologie stable, ce qui exclut, par exemple, les gens atteints de dégénérescence maculaire ou de glaucome. Ils doivent pouvoir distinguer adéquatement les couleurs et les contrastes. Deuxième étape, apprendre à voir de loin. Pendant 4 mois, l'entraînement visuel se met en place. Une demi-journée par semaine, l'usager doit aller à l'Institut où il se familiarise avec l'usage du télescope bioptique. Ce mini-télescope qui grossit l'image 4 fois est ajusté dans une lunette adaptée aux problèmes de vision de l'usager. À cette étape, on utilise un simulateur de conduite avec lequel on peut recréer de nombreux scénarios de conduite de jour, de nuit, dans différentes conditions météo. Au début, l'usager ne fait que commenter ce qu'il voit. Tout ce qu'il fait au début, c'est regarder et nous expliquer ce qu'il voit. On peut ainsi lui apprendre quel comportement visuel il devrait adopter sur la route, explique Annick Gemme. C'est que l'usager ne regarde pas constamment dans le télescope, seulement lorsqu'il veut voir au loin. Il doit donc se familiariser avec cette gymnastique visuelle. Par la suite, l'usager prend virtuellement le volant et fait face à diverses difficultés. Des piétons qui surgissent de nulle part, des autobus qui s'insèrent dans la voie, des tempêtes de neige. Troisième étape des cours de conduite. Ensuite, l'usager suit un cours de conduite, tout ce qu'il y a de plus normal, qui dure 13 mois, comme pour tous les apprentis conducteurs. On offre un peu plus de cours pratiques à nos usagers. À quelques reprises, le personnel de l'Institut s'insère dans les cours pour s'assurer que la personne évolue bien, précise Annick Gemme. Et finalement, dernière étape, l'examen. Les usagers de l'Institut passent le test. Alors, je rappelle que c'était un article de Katia Gagnon, paru dans la presse le 29 décembre dernier. Alors, une deuxième bonne nouvelle publiée dans le Devoir, dans la section Santé du Devoir le 21 janvier, écrite par Amélie Daou-Boisvert, et dont le titre est « Les droits des patients sur le web ». En lançant un site d'information sur les droits des patients, l'avocat Jean-Pierre Ménard espère leur redonner du pouvoir. On veut que les gens gardent le contrôle sur leur vie, de la naissance à la mort, a expliqué le spécialiste en droit de la santé. Mardi, le 20 janvier dernier, alors qu'avec son équipe, il lançait le site Vos droits en santé, dont l'adresse est vosdroitsensante.com. Élaboré et financé par son cabinet d'avocats, le site répond aux questions sur l'aide médicale à mourir, l'accouchement, les frais exigibles par un médecin ou les refus de traitement, par exemple. Le tout appuyé par la jurisprudence existante. Maître Ménard juge que l'information disponible en ligne était fragmentée. C'est pourquoi il a travaillé à cette initiative. L'information, c'est le pouvoir. Il y a une tendance lourde à adapter les usagers au système et non pas le contraire. Le site vise à permettre une réappropriation du pouvoir par les usagers. Il croit aussi que s'ils sont mieux informés, les professionnels de la santé en sortiront gagnants. Si un chirurgien connaît mieux les droits des patients, il ne percevra pas les questions comme des attaques, croit Maître Ménard. Le Conseil pour la protection des malades, ou CPM, voit l'initiative d'un très bon œil. Les gens ne connaissent pas leurs droits, constate Maître Gabriel Dupuis. Le fait que le site soit une initiative privée en dit long sur le sous-financement des organismes qui œuvrent en défense des droits. Il estime nécessaire la disponibilité d'une information impartiale et factuelle, rassemblée à une même adresse. Il y a encore beaucoup d'opacité dans le système, constate le responsable des services et du développement au CPM. Alors, rappelons l'adresse du site vosdroitsensante.com. C'était un article de Amélie Daou-Boisvert, paru dans Le Devoir le 21 janvier dernier.
Quelques brèves. D'abord, chicane thermique. À quelle température régler le thermostat cet hiver? En général, on conseille 21 degrés centigrades dans les pièces occupées, 18 degrés centigrades la nuit et quand vous partez travailler, 15 degrés centigrades en cas d'absence prolongée. Évidemment, le confort est bien personnel, à tel point que dans les foyers américains, on s'obstine davantage à propos du contrôle de la température que de celui de la télévision, selon le fabricant de thermostats Honeywell. Pour limiter les fluctuations de température au gré de la frilosité de chacun, optez pour un modèle verrouillable.
Maintenant, un conseil pour le Carnaval de Québec. Fini les calories, point d'interrogation. Plutôt que d'indiquer le nombre de calories sur les emballages des aliments, la professeure Sarah Bleach de l'Université Johns Hopkins à Baltimore, au Maryland, propose d'inscrire l'effort physique nécessaire pour les éliminer.
Ah, intéressant. Oui.
Sur une bouteille de Coca de 590 millilitres, par exemple, au lieu de 240 calories, on pourrait lire 50 minutes de jogging. Des essais préliminaires menés dans un dépanneur de Baltimore ont montré que cette mesure poussait les consommateurs à acheter des boissons gazeuses et des jus de fruits de plus petit format.
Oui, c'est plus concret.
Alors, en ce temps froid, tout doux pour la peau, l'avoine est souvent l'ingrédient clé des crèmes conçues pour apaiser la peau irritée. Si les petits pots de crème vendent souvent du rêve, dans le cas de l'avoine, ce rêve est devenu réalité. Ces bienfaits se produiraient grâce aux avenants taramides, une composante aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui aiderait à soulager les symptômes de la dermatite atopique, du psoriasis, et d'autres démangeaisons cutanées.
Merci, docteur.
Et maintenant, du congélo au fourneau. Vous êtes pressé? Inutile de décongeler le poisson avant de le faire cuire. Les filets et darnes peuvent passer directement du congélo au fourneau, à la poêle ou au grill. Rincez le poisson à l'eau froide pour enlever les cristaux de glace. Séchez-le à l'aide d'un essuie-tout. Allongez de quelques minutes le temps de cuisson et le tour est joué.
Bon, alors on a de la suite dans les idées. Au sujet des changements climatiques, qu'en pensent les plantes? Ah, c'est une question qu'on peut se poser.
Qu'on pourrait poser aux plantes, oui.
Les plantes pourraient un jour nous dire comment elles vivent les effets des changements climatiques, croit Andrea Vitaletti, qui est professeur de génie informatique à l'Université de Rome. Partant du principe que les plantes sont de bons indicateurs des répercussions des changements climatiques, des pesticides ou de la pollution, ce chercheur italien a conçu des électrodes très fines pour capter les signaux électriques qu'elles émettent en réaction aux modifications de leur environnement. En plaçant ces électrodes dans des plants de tomates et de tabac, il espère parvenir à interpréter ce que ces plantes expriment au sujet de leurs conditions de vie. On peut toujours rêver.
On peut toujours rêver.
Oui. Alors, c'était le Kiosque Magazine de ce 2 février que nous avions vous proposé. Ici, Franceline Nieuviard et Marie Lalande, et de même que Roger Roy et Jean-Sébastien Laliberté. Nous vous remercions de votre attention et nous vous disons...
À la semaine prochaine.
Au revoir.
À lundi.